Et voici le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les émeutes au Chili ont fait 7 morts en 2 jours. L'état d'urgence instauré, des milliers de militaires déployés dans la capitale Santiago. À l'origine, c'est la hausse annoncée du prix du ticket de métro qui entraînait les premiers rassemblements. Les manifestants s'insurgent maintenant contre les inégalités, nous dira Nabila Hamel.
Colère aussi au Liban. Des centaines de milliers de personnes sont encore descendues dans les rues hier, notamment dans la capitale, à Beyrouth.
Pour dénoncer l'inaction et la corruption de la classe politique, le mouvement s'étend aussi à d'autres villes. Reportage à suivre dans le sud du pays, au 4e jour de cette mobilisation d'une ampleur inédite. Reportage à suivre à Tyr.
Alors que l'Iran détient l'universitaire Roland Marshall et la chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelka, un autre dossier empoisonne les relations entre Paris et Téhéran.
Oui, celui de l'opposant Rawal Azam, kidnappé par les services secrets iraniens. Nous entendrons le témoignage de sa fille qui s'exprime pour la première fois.
La SNCF annonce un retour à la normale aujourd'hui après 3 jours de fortes perturbations.
Après l'accident d'un TER sur un passage à niveau dans les Ardennes mercredi, où en sont les discussions entre la direction et la CGT, on entendra les deux parties dans ce journal. Alors que les salariés de General Electric doivent voter ce matin pour ou contre le plan social proposé par la direction. Reportage devant l'usine de Belfort dans un instant. Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant, a déclaré cette nuit le président chilien, alors que les émeutes ont fait 7 morts depuis vendredi. Des milliers de militaires déployés dans les rues de la capitale, Santiago, une situation inédite depuis la dictature de Pinochet. Une crise partie de l'annonce du hausse des prix des tickets de métro dans la capitale. La colère s'est ensuite étendue à d'autres villes du Chili. Elle a ensuite surpris par son ampleur le président Piñera, qui a renoncé à sa mesure le lendemain. Mais le fait d'avoir décrété un couvre-feu et nommé un général pour le faire respecter n'a fait qu'attiser la colère, Nabila Hamel.
État d'urgence imposé pour 15 jours, couvre-feu de 22h à 7h du matin, déploiement de 8000 soldats et policiers à Santiago. Cette réponse du gouvernement a exacerbé la colère des manifestants. Bus, voitures, matériel urbain et supermarchés incendiés ou saccagés, des stations de métro dégradées, retour également des concerts de casseroles comme au temps de la junte de Pinochet et des portraits de disparus de cette période ont été brandis dans les rues. Le déclencheur de cette colère a été la hausse du prix du métro dans la capitale pendant les heures de pointe. Le ticket devait passer de 800 à 830 pesos, soit 1,04 euros, après une première augmentation de 20 pesos en janvier dernier. Pour une ville de 7 millions d'habitants, très polluée et congestionnée, c'était la mesure de trop, car les transports en commun sont très utilisés pour se déplacer à Santiago. Le président de centre droit, Sébastien Piñera, est certes revenu sur sa décision dès que la rue a bougé, mais le mouvement s'est transformé en ras-le-bol général et s'est étendu à d'autres villes comme Valparaiso et Concepción. On en a marre des abus, le Chili s'est réveillé, des slogans relayés par les réseaux sociaux pour protester contre le coût élevé de la vie dans un pays qui compte parmi les plus riches d'Amérique latine, mais où, paradoxalement, les inégalités sont parmi les plus grandes dans cette région.
Nabila Hamel, l'ambassadeur de France au Chili, appelle les ressortissants français sur place à faire preuve de la plus grande prudence et de la plus grande vigilance, à éviter tout rassemblement. Au Liban, des centaines de milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues hier, 4 jours après le début des manifestations qui paralysent le pays. Une mobilisation déclenchée de manière spontanée jeudi par l'annonce d'une taxe sur les appels effectués via la messagerie WhatsApp. Décision annulée aussitôt sous la pression de la rue. Mais c'est maintenant un vaste mouvement contre la corruption de la classe politique qui se déploie, dénonçant aussi des conditions de vie inacceptables. De Beyrouth à la ville à majorité sunnite de Tripoli dans le nord, en passant par les localités chiites du sud, à majorité chiite donc, peu habituée à contester l'ordre établi. Reportage à Tyr de Chloé Doma.
Sous le soleil et face à la mer, ils sont plus de 2000 réunis dans le centre-ville. Ambiance festive, des manifestants de tous les âges venus seuls, en famille ou entre amis, tous avec un drapeau libanais, comme Rami, 54 ans.
C'est la première fois qu'ils manifestent de telle ampleur. Là, vous avez des chrétiens derrière moi, des musulmans, sunnites, chiites, de toutes les confessions religieuses, de tous les bords.
4 jours de mobilisation et ils sont toujours plus nombreux. Leur cible, des responsables politiques corrompus et des partis communautaires hérités de la guerre civile, comme nous l'explique Iman.
On n'a ni électricité, ni de l'eau, ni on vit dans la pollution. Ils font rien. Ils sont tous des voleurs. On veut qu'ils partent et qu'ils nous rendent notre argent.
Ici à Tyr, la majorité est chiite, en principe tenue d'une main de fer par deux partis, le Hezbollah et Hamal, qui n'a pas hésité samedi à envoyer ses miliciens mater la contestation.
Il faut toujours accepter ce qu'ils veulent. Maintenant, nous, on est libres là. Ils ont créé des problèmes pour qu'on recule. Mais on n'a pas peur, on n'a pas accepté, on est resté dans les rues.
Pas question de plier, les Libanais restent mobilisés. C'est tout un système dont ils veulent se libérer.
Reportage à Tyr, signé Chloé Doma. Le premier ministre libanais Saad Hariri et ses partenaires de la coalition se sont entendus hier soir sur un ensemble de réformes économiques censées répondre à ce vaste mouvement de contestation. Aux États-Unis, c'est un procès historique qui s'ouvre aujourd'hui, le procès des opiacés. Depuis la fin des années 90, ces médicaments ont entraîné la mort de 400 000 personnes par overdose, entraîné aussi la plongée dans les abîmes d'un système de santé, des services sociaux débordés. Cette catastrophe coûterait chaque année près de 80 milliards de dollars. Plusieurs géants de pharmaceutiques sont sur le banc des accusés. 2300 plaintes ont été déposées. Direction l'appel de la fille d'un opposant iranien enlevé par les services secrets maintenant. Rouhal Azam, qui bénéficiait du statut de réfugié politique en France, a été kidnappée en Irak le 16 octobre dernier par les services secrets iraniens. Depuis sa disparition, sa famille, qui habite le Tarn-et-Garonne, n'a plus aucune nouvelle de lui. Il était pourtant réfugié politique en France. Christian Chesneau a rejoint la fille de l'opposant iranien, Niaz Zam, qui s'exprime pour la première fois.
Cette lycéenne de 16 ans ne cache pas que les activités militantes de son père l'inquiétaient. Ce dernier, qui appelait via les réseaux sociaux à des manifestations pacifiques en Iran, avait reçu des menaces et bénéficiait, lui et sa famille, de la protection des services de sécurité français. Et quand Rouhal Azam évoque son projet de voyage en Irak, sa fille, Niaz, et ses proches essaient de le dissuader de partir.
Comme nous lui avons déconseillé, nous, sa famille, on lui a dit à plusieurs reprises, mais il était persuadé qu'il avait un très gros projet là-bas. Donc, il fallait absolument qu'il s'y rende, quoi. On lui a dit que c'était dangereux, que c'était risqué. C'est, voilà. Irak et Iran, il n'y a qu'une seule lettre qui change. Et c'est à côté.
Après avoir été kidnappé en Irak, pays dans lequel les services iraniens ont le bras long, Rouhal Azam est transféré secrètement en Iran, où il se trouve aujourd'hui incarcéré.
Mon père, il a disparu. J'ai plus de ses nouvelles. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et je sollicite l'État français d'aider mon père, de suivre l'affaire et de nous aider, quoi.
Le dossier de Rouhal Azam est d'autant plus complexe que Paris cherche aussi à obtenir la libération de Roland Marshall, chercheur au CERI, et de Fariba Adelra, universitaire franco-iranienne, tous deux arrêtés en juin dernier en Iran.
Christian Chesneau pour France Culture.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont dans les matins, direction maintenant le Canada, où le premier ministre libéral Justin Trudeau tente de se maintenir au pouvoir après un premier mandat de 4 ans.
Oui, les 27 millions d'électeurs votent aujourd'hui pour renouveler leurs députés. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Alors Justin Trudeau est en difficulté pour ses dernières, selon les dernières estimations. Vous nous expliquez donc la situation depuis le Canada, Nathanaël.
Écoutez, tous les sondages parlent de coude à coude entre les libéraux de Justin Trudeau et les conservateurs d'Andrew Scheer, si bien que les commentateurs imaginent que le Premier ministre canadien n'aura pas la majorité qui est de 170 sièges à la Chambre des communes. Et pourtant, Justin Trudeau n'a pas démérité, vous savez, il a un bilan économique satisfaisant. Imaginez, le taux de chômage est de 2,3%. Partout, vous trouvez des panneaux, ici, recherche employé. Il a donné une vraie modernité au pays avec un gouvernement qui respecte diversité et égalité hommes-femmes. Il a donné une stature internationale au Canada. Bref, sur le papier, il a plutôt rempli sa mission.
Alors Nathanaël, comment peut-on expliquer qu'il a perdu autant de crédit chez les électeurs canadiens ?
Il y a 4 ans, Trudeau était le plus jeune candidat. Cette année, il est le plus vieux. Vous ajoutez à cela l'usure du pouvoir et surtout des scandales politico-judiciaires ou crises qui ont mis le soupçon sur sa sincérité en politique. Un exemple, il se veut le champion de la défense de l'environnement, mais parallèlement, il a financé un pipeline à plus de 4 milliards pour le pétrole de l'ouest du Canada. On lui reproche de dire une chose et de faire le contraire.
Merci Nathanaël Charbonnier à Montréal pour France Culture. Les députés britanniques ont imposé ce week-end un nouveau délai à l'accord de sortie de l'Union européenne pour négocier donc par leur Premier ministre Boris Johnson, qui a envoyé deux courriers contradictoires à Bruxelles, l'un demandant le report du Brexit, l'autre encourageant Bruxelles à ne pas tenir compte de cette première demande. Un nouveau vote sur cet accord devrait avoir lieu cette semaine, le temps que l'Union européenne décide si elle accorde ou non un nouveau report du Brexit pour janvier prochain.
8h10 sur France Culture, le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, promet que tous les billets qui n'ont pas pu être utilisés seront remboursés et la mise en place d'un fonds d'indemnisation de 1 million d'euros pour indemniser les voyageurs.
Oui, 4 jours après le droit de retrait exercé par les cheminots, après un accident survenu mercredi et en fait plusieurs blessés sur un passage à niveau avec un seul conducteur à bord du train dans les Ardennes, Guillaume Pépi annonce aussi un retour à la normale dès ce matin pour l'ensemble des transiliens, des trains à grande vitesse et des Ouigo. Le trafic sera assuré aux deux tiers en revanche pour les intercités et les TER au début de journée avant de remonter en puissance progressivement au fil des heures. Et sur la présence des contrôleurs dans les TER, qui est une pierre d'achoppement dans les négociations, Guillaume Pépi annonce plusieurs mesures.
En région parisienne, en Île-de-France, comme dans beaucoup de pays européens, il y a chaque jour 6000 trains, 6000, la totalité, qui circulent avec un conducteur qui est seul à bord de la rame. Ça fait 30 ans que ça existe. C'est un système qui est conçu en toute sécurité et qui a été validé par l'autorité de sécurité française, qui est l'établissement public de sécurité ferroviaire. Maintenant, c'est bien quand on peut mettre un contrôleur. Souvent, aujourd'hui, au lieu que le contrôleur soit tout seul, on fait travailler les contrôleurs par équipe de 2 ou 3. Ils tournent pour attraper la fraude, pour rassurer les voyageurs. Voilà, ils tournent entre les trains et entre les gares.
Pour Sébastien Nau de la CGT Cheminot au Champagne-Ardennes, là où s'est produit l'accident, le trafic ne sera pas normal tant que la direction régionale de la SNCF n'assurera pas concrètement le retour des contrôleurs dans les rames TER de la région.
Ça dépendra de la direction qui rouvre les négociations et s'ils nous écoutent. Les agents, ils sont au travail, ils sont en uniforme. Et au lieu d'apporter des réponses concrètes aux problèmes rencontrés suite à ce énième accident, la direction de la SNCF, elle joue avec le feu, quoi. Et le gouvernement joue les gros bras dans une séquence politique sociale qui lui est défavorable. Voilà, les menaces, de toute façon, ça fait jamais reprendre le travail. Hein. Ça énerve plutôt les gens qu'autre chose.
Les propos recueillis par Sarah Lemoine. Droit de retrait ou droit de retraite à propos de cette mobilisation des cheminots, ce sera la question posée par Stéphane Robert dans son billet politique juste après ce journal. Les salariés de General Electric vont devoir voter à main levée pour décider de leur sort ce matin en Assemblée Générale, choisir ou non de valider le projet soumis par la direction et qui divise les syndicats. Il prévoit la suppression de 500 postes au lieu de 800, mais au détriment de plusieurs de leurs acquis sociaux, notamment une réduction du nombre de RTT. Certains sont sur le piquet de grève depuis 13 jours maintenant. Reportage devant l'usine d'Adeline Divou.
Des rires autour d'un café derrière un feu qui crépite. L'ambiance est plutôt bonne sur le piquet de grève pour les quelques salariés présents. Mais au fond, certains n'y croient plus vraiment, comme Jimmy qui n'ira pas voter ce matin.
Moi, pour moi, c'est foutu. De toute façon, c'est juste déplacer le problème. Ben, on va attendre un peu l'échéance finale, quoi.
Denis non plus ne se rendra pas au vote. Il estime que le système de la main levée n'est ni représentatif ni juste.
S'ils font un vote, vraiment en bureau, où là on peut vraiment donner notre avis, où tout le monde sera écouté, oui. Mais là, il y a les gens, s'ils sont pas là, ben ils vont pas lever la main. Il y a des gens, ben ils vont être forcément un petit peu influencés. Un tel a levé la main, moi je sais pas si je vais lever la main.
Les piquets de grève installés à l'entrée des sites de Belfort et Bourgogne depuis le 8 octobre doivent normalement être levés à midi, à l'issue du vote. Mais le combat n'est pas fini, estime Stéphane, délégué CGT.
C'est qu'un commencement. On va lutter autrement, on va faire des actions, on va défendre les copains qui seront en danger. Parce que je pense qu'ils viendront quand même nous taquiner.
Quoi comme action par exemple?
Je sais pas, on verra avec les camarades. C'est les gens qui choisissent, c'est pas nous, on les accompagne. Hein.
Plus qu'à attendre l'avis des salariés sur le sujet ce matin. S'ils disent oui au dernier accord proposé par la direction, les syndicats pourront rouvrir les négociations jusqu'à fin novembre.
Reportage signé Adeline Divou. La CGT a déjà fait savoir qu'elle ne signerait pas l'accord. Légalement, la direction n'a besoin que de la signature de deux organisations, la CFE-CGC et Sud, qui sont majoritaires. La météo, un temps pluvieux le long de la frontière belge, avec aussi des averses annoncées au bord de la Méditerranée sur le quart sud-est. L'après-midi, il y aura un peu plus d'éclaircies. Le matin, je reviens au matin, pardonnez-moi, plus de soleil sur la moitié ouest du pays. Les températures sont plutôt douces. Elles sont comprises entre 10 et 24 degrés du nord au sud, 10 degrés à Clermont-Ferrand, 11 degrés à Lille, 12 à Limoges et Paris, 15 à Lyon et jusqu'à 20 degrés à Nice, même 24 à Ajaccio.